L'intérêt et la bienveillance de Mathieu Ricard pour la condition animale sont anciens et sous-tendent le bouddhisme selon lequel l'animal est considéré comme un être sensible qui veut, comme tout être humain, éviter la souffrance et rester en vie. Cet engagement pour le monde animal va de pair avec un engagement éthique et écologique. Mathieu Ricard a à cet égard publié en 2014 son plaidoyer pour les animaux où il se fait leur porte-parole. Il y questionne leur intelligence, leur sensibilité, notre devoir moral envers eux, ainsi que les souffrances qui leur sont infligées par les hommes, en s'appuyant sur des expériences, des études, des travaux de scientifiques, de philosophes et d'éthologues. Un ouvrage complet pour qui veut comprendre la condition animale et qui nous incite à étendre notre bienveillance à leur égard. Invité à l'occasion du premier salon du livre animalier à Périgueux, Mathieu Ricard a accepté, avec bienveillance, de répondre aux questions de Bien en Périgord. Avant d'aller plus dans le détail, qu'est-ce qui motive votre participation à ce premier salon du livre animalier de Périgueux?
Je trouve que c'est très méritoire. En Dordogne, donc il faut... mon idée c'est, je ne fais plus de conférences en gros. Parce que voilà, ça suffit, j'ai fait le clown pendant 25 ans, à le bol. Mais là je me suis dit, il faut quand même les soutenir. Je ne sais pas si je peux le dire, mais dans un pays quand même de chasseurs et de foie gras, entre autres, je me dis, si on me donne cette opportunité, je ne peux pas dire non.
C'est courageux.
C'est local.
Donc en fait, votre envie c'était de soutenir cette initiative.
Mais il y a l'ensemble de la question, qui est plus grave, je dirais, c'est le réchauffement climatique. La consommation de viande, il ne faut pas être un fanatique. Moi, je suis évidemment végétarien depuis 55 ans, mais je veux dire, ce n'est pas une croisade pour le végétarisme. C'est, comme je le dis dans un chapitre, tout le monde y perd ou tout le monde y gagne. Donc, parce qu'il y a, si on voit que les hommes d'abord, il y a ces céréales, donc c'est la pauvreté humaine. Parce que c'est les gens qui perdent 1,5 milliard, disons, de personnes qui pourraient mieux se nourrir si on ne faisait pas de viande, qui est une usine de protéines à l'envers, ben, point de vue de l'éradication de la pauvreté, ça serait une bonne chose. Hein, ça, c'est les humains. Alors, les animaux, les nombres sont énormes. Hein, vous voyez, c'est le nombre d'êtres humains vivant sur Terre tous les 2 mois. Donc ça, ça fait beaucoup de morts et beaucoup d'animaux. Et en gros, c'est, nous sommes tout, ils sont rien. C'est-à-dire qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut, ils sont là à notre disposition, alors que maintenant, on sait, à moins de fermer les yeux sur toutes les connaissances scientifiques, que si on a une conscience, et comme l'évolution est très économe, eh ben, ou des émotions, il y en a toutes différentes formes, parce qu'on n'est pas tombé brusquement, on n'est pas né dans un chou, tombé du ciel, avec l'intelligence, et si c'est utile à nous, c'est certainement utile à d'autres animaux. Donc certains ont d'ailleurs des facultés que nous n'avons pas. J'ai vu récemment que des barges du Canada avaient battu le record de distance, ils ont volé non-stop en Nouvelle-Zélande, en je ne sais pas combien, 3 semaines, ça fait 12 000 km. Et tout ça en s'orientant sur les étoiles.
Sur les étoiles.
Mmh. Vous voyez, on ne fait pas ça. Moi, dans le noir, je suis paumé. Je suis même paumé dans la journée. Donc, vous voyez, vous aussi. Et les chauves-souris, elles se promènent dans le noir. Aucun problème. Eh bien, nous, on n'a pas ça. Chacun a ce qui lui permet de
quelque
survivre.
Chose.
L'intelligence, nous, c'est évidemment extraordinaire. On fait des symphonies, on écrit des poèmes, Ronsard, Jean-Sébastien Bach, d'accord. Mais bon, ça ne nous donne pas le droit d'user du droit du plus fort pour exterminer tout le reste.
Alors, on va y venir. Sur cet événement donc, du 6 et du 7 octobre, qu'est-ce que vous pensez justement que ce type d'événement peut apporter à la fois sur une meilleure connaissance de la condition animale, d'une manière générale, qu'est-ce que ce type d'événement peut apporter?
Je vous parle un peu comme ça. Mais moi, je ne suis pas un moralisateur et je ne rentre pas dans le chou des gens. Donc, je vais être beaucoup plus modéré. Je vais simplement... Ce que j'ai fait dans mon livre, j'ai dit, écoutez, je ne juge rien. Je vous dis simplement, ne détournez pas le regard. C'est-à-dire, prenez conscience de la réalité. C'est comme les gens de Total qui disent on continue comme avant. Non, on ne peut pas continuer comme avant. On voit maintenant tous ces incendies et tout ça. Je veux dire, il faut vraiment être non seulement aveugle, mais pas penser qu'on a des enfants, des petits-enfants. Moi, j'en ai pas, mais il y en a d'autres qui en ont. Quand j'ai entendu Stephen Forbes, un milliardaire américain, déclarer sur Fox News à propos de la montée des océans, qu'il trouvait absurde de modifier son comportement maintenant pour quelque chose qui arrivait dans 100 ans. Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'enfance, monsieur?
Oui, ou alors il n'en a rien à faire. Oui, il n'en a rien à faire. Il va arriver aux générations.
Donc ils verront, on verra, ils se débrouilleront. Pour l'instant, il faut continuer.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, en effet, aujourd'hui.
Donc si vous voulez, d'accord, après moi le déluge, mais les générations d'avenir, ils vous maudiront. Et vous saviez, vous n'avez rien fait. Donc ça, l'ensemble de la question animale s'incarne dans un contexte beaucoup plus vaste. Ça serait de loin la manière la plus aisée et rapide de réduire l'émission de CO2. La COP 23, ou je ne sais pas quoi, qu'il y a eu à Glasgow. Bizarrement, y compris le Brésil, tout le monde est d'accord pour réduire les émissions de méthane. Alors là, ça va aller savoir pourquoi ils ont accepté, parce qu'on sait que les émissions de méthane, à part le dégel du permafrost qui ne concerne pas le Brésil, c'est l'élevage industriel. Donc s'ils acceptent ça, très bien. Moi j'étais surpris, je dis, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Sauf que le mois d'après, la Commission européenne dit il faut aider les éleveurs et promouvoir l'élevage. Alors, il dit, ouais, attendez, bougez pas. Moi récemment j'ai navigué, il y avait un petit bateau, mais il y avait deux personnes, la propriétaire du bateau et un capitaine de long cours qui tenait la barre. Il y en a un qui me dit, largue les coudes, l'autre il me dit, tiens là bien. Alors j'ai dit, écoutez, moi je suis le mousse, mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Donc soit on veut réduire le méthane, c'est ça. Soit on promeut l'élevage.
Oui. Alors vous dites, vous considérez les animaux comme nos concitoyens. Et oui. Vous estimez, je vous cite, que les frontières que l'homme a dressées entre les différentes espèces animales relèvent d'une mauvaise biologie.
Oui, alors, inconnaissance de la biologie.
Comment cette dissociation, justement, favorise-t-elle l'instrumentalisation des animaux?
C'est que si vous voulez, quand on était des chasseurs-cueilleurs, les animaux, le jaguar, ils avaient l'esprit des animaux, donc ils connaissaient très bien les animaux, les mœurs des animaux. Les chasseurs disent qu'ils connaissent bien, ils les connaissent sûrement un peu, enfin, quand ils disent que les naturalistes les connaissent moins bien, enfin, toujours est-il qu'ils connaissaient très bien les animaux, mais ils n'avaient pas de contact personnel, je dirais. C'est-à-dire que les espèces, ils savaient que tel serpent est dangereux, qu'un jaguar, il faut faire gaffe quand même, un ours blanc, c'est très gentil, mais il ne faut mieux pas laisser une trace sous le menton. Et quand ils en tuaient, ben, ils demandaient la permission à l'esprit, enfin, il y avait un respect. Donc ils étaient différents, mais pas inférieurs. Moi, je vous le dis, j'ai une tigresse qui tourne autour de mon ermitage de temps en temps, j'ai aucun sentiment de supériorité. Alors là, quand je l'entends, oups, je me garde dans mon ermitage. Hein. Je ne me sens pas supérieur. Moi, si j'avais une Kalachnikov. Donc, si vous voulez, après, il y a 12 000 ans, le climat se stabilise, le fameux Holocène, et on commence à pouvoir cultiver. Parce qu'avant, on possédait ce qu'on pouvait porter, parce qu'on se déplaçait constamment. Très faible population, entre 1 et 5 millions. Et à un moment donné, on commence à pouvoir faire des cultures et aussi élever des animaux qui sont devenus des animaux domestiques, etc. Et donc là, ben, vous la connaissez, Blanchette. Vous l'avez élevée, vous l'aimez parfois, même souvent. Les paysans, ils aiment bien leurs animaux, ils en prennent soin. Et un jour, malgré tout, il faut la tuer. Alors on est bien embêté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire une dissociation morale. Donc soit... elles sont là pour nous. Le bon Dieu nous les a données. La plupart, beaucoup de religions monothéistes nous disent ça.
Vous en parlez dans un plaidoyer pour les animaux.
Mais comme disait Milan Kundera qui vient de décéder, on voit bien que la Bible n'a pas été écrite par un cheval.
Oui, c'est ça. Bon. Donc, vous remontez.
Donc, si quelqu'un venait d'une autre planète en disant nous, on est des êtres supérieurs, on nous a dit qu'on pouvait manger de la chair humaine, en plus, on aime beaucoup le goût, qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben non, écoutez votre Dieu et qu'il vous raconte n'importe quoi. Bon. Toujours est-il qu'il y a eu cette dissociation, donc ils sont là pour nous, ou alors ils sentent rien, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont
pas de douleur. Donc
on a fait si vous voulez, les gens qui font des persécutions humaines, des génocides, souvent ils dévalorisent les êtres humains. Ils les comparent à des animaux d'ailleurs, des pestes, des vermines, des rats. Les animaux, maintenant on les réifie, on les compare à des choses. Ça devient des machines à faire des saucisses, donc... En fait, on est bien embêté qu'ils aient une sensibilité, des émotions et surtout pas une conscience parce qu'on ne pourrait pas décemment faire ça. Donc il y a cette dissociation jusqu'à Descartes, la maîtrise, l'animal-machine. Il disait si vous fichez un coup de pied à un animal et qu'il crie, c'est comme si vous fichez un coup de pied à un réveil le matin, ça fait gling, gling, gling. Ils ne sentent pas. Donc, maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Même les poissons, même les crabes, ils ont des terminaisons nerveuses. On sait qu'ils ressentent la douleur. Enfin, ils n'ont pas raconté, mais on peut voir les décharges des terminaisons nerveuses quand vous leur faites mal. Si vous anesthésiez des antennes de crevettes, eh ben, vous mettez de l'acide, elles ne réagissent plus. Mais si ce n'est pas anesthésié, elles se frottent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, si vous voulez, à moins de détourner le regard, on ne peut plus décemment dire que c'est des objets qu'on peut utiliser à notre guise. Donc là, il y a un dilemme, et il faut pour ça mettre de côté ce qu'on appelle une distanciation morale. Donc on fait, on n'est pas des méchantes personnes, mais ça, les animaux, c'est des choses, c'est des objets, ils sont là pour nous, etc. Et donc ça nous donne une justification pour faire quelque chose qu'on n'aimerait pas faire à quelqu'un qu'on aime.
Alors vous allez même encore plus loin, vous parlez à un moment donné de schizophrénie morale.
Ben, schizophrénie morale, c'est un terme pour dire dissociation.
Oui, mais par rapport au fait que on est nombreux, il y a de nombreuses personnes qui vont s'insurger sur les réseaux sociaux notamment parce qu'un chat a été victime.
Ah oui, c'est ça. Alors là, c'est
et puis,
le même jour, dites, et puis je ne sais plus combien c'était, 500 000 porcs ont été tués, alors voilà. Un petit chat Oscar, tout le monde s'affole.
Voilà.
Alors moi, j'ai vu un très beau truc sur YouTube récemment, ça a super marché, le rayon des jambons, et puis il y a marqué jambon frais, etc. Et alors il y a marqué jambon ultra frais, saveur inimitable. Puis les gens disent, ah ouais, je voudrais un peu. Ah oui, d'accord, très bien. Alors il y a une machine, puis il prend dans un panier un petit porcelet, et puis il commence à le mettre dans la machine. Tout le monde, mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben je vous prépare du jambon frais, oui. C'est une nouvelle machine. Ah ben non, vous ne savez pas faire ça. Mais pourquoi vous? C'est ce qu'on. Oui. Loin des yeux, loin du cœur.
C'est ça, et ça rejoint l'anecdote de Tolstoï.
Oui, avec sa tante.
Et qui lui
a mis le couteau et le poulet.
Le poulet et le couteau.
Et ouais. C'est Tom Regan, qui est un des grands théoriciens des droits des animaux, qui disait, en fait, on a attribué ça à Paul McCartney, mais ça vient de Tom Regan, l'un des Beatles. Mais en fait, ça, il a dit, si les murs des abattoirs étaient faits de verre, on arrêterait, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer, sauf sans garder qu'une centrale atomique. Allez faire un reportage dans les abattoirs, oui, quand on sait que vous avez une sympathie.
Oui.
Vous ne rentrez pas.
Oui.
Bon, la dame de la NFNSEA, quand j'ai vu un petit truc avec le journal du dimanche, c'est qui maintenant les présidentes, je crois, elle m'a dit, ben, venez donc, moi j'ai un truc modèle, les visites c'est le samedi. Quoi. Le samedi, il ne doit pas se passer grand-chose. Il va venir les écoles, il ne se passe rien, on voit les abattoirs, on voit les animaux qui attendent, puis le lundi, ça y va.
Alors justement, vous avez évoqué la nécessité de redéfinir l'éthique et d'englober dans cette éthique la sensibilité.
Ben oui, parce que si vous voulez, on a fait tellement de progrès finalement. Bon. Alors en plus, l'esclavage, il a commencé en même temps que la domestication des animaux. Parce qu'on dit, ben, ceux-là, ces êtres humains-là, c'est un peu comme des animaux, ils sont pas. Donc c'était en Asie mineure. Et simultanément à l'apparition de l'élevage, on avait les premiers types d'esclavage. Donc on dévalorise, si vous voulez. Donc l'éthique, on a maintenant aboli l'esclavage, bien sûr, encore, il y en a encore de l'esclavage sous différentes
moderne,
formes,
hein,
avec les migrants, avec les travailleurs, machin, avec la prostitution, etc. Mmh. Il y a de l'esclavage, c'est indiscutable. En Inde, il y a ce qu'on appelle « banded labor », c'est des gens qui sont en dette pour des générations, donc les enfants doivent travailler pour l'entrepreneur pendant des générations. Ceci dit, officiellement, moi, il n'y en a plus. Officiellement, la torture est abolie, bien, ça continue. Mmh. Il y a la question des droits de l'homme, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Le vote des femmes, c'est pas encore loin d'être idéal, mais quand même, on commence à faire ce qu'il faut pour la parité, enfin, même si on n'y arrive pas encore. Disons, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas garder ces anciens critères. Sur les animaux, ça vient, mais ce n'est pas encore clair. Donc, c'est un peu le seul domaine. Et c'est pas rien, parce qu'encore une fois, c'est 8 millions d'espèces, c'est tous les autres. Où là, il y a quand même encore un fossé moral qui fait qu'on n'est pas cohérent.
Oui, vous
on se voit de la face.
Vous citez d'ailleurs à un moment donné, hein, j'anticipe un peu, si la mobilisation pour la condition animale s'intensifie, on voit bien que les bonnes intentions, parfois, ben, elles ont du mal à résister à des logiques de consommation. Et en fait... on tolère, et vous dites, on oublie un peu notre compassion au bord de notre assiette.
Oui, ben c'est ça, oui. La compassion s'arrête au bord de l'assiette. Si vous voulez, il y a eu une enquête en Australie, que je cite à la fin du bouquin, où on disait, finalement, pourquoi vous mangez de la viande? Le gros truc, c'est parce que j'aime ça. Bon, c'est pas un argument moral. C'est... Et ensuite, ben parce que je sais pas quoi cuire d'autre. Ou parce qu'en famille, c'est pas pratique, s'il y en a un qui mange pas de viande. Ben, tout ça, c'est na... Zéro valeur morale, c'est des choses de convenance personnelle, évidemment égoïste par nature, puisque c'est Marguerite Yourcenar qui disait « je ne veux pas vivre de la souffrance et de la mort des autres ». Bon, c'est un peu ça qu'on fait. Alors on ne veut pas dire ça dans ces termes, parce que ça nous choque et ça nous déstabilise. Moi, je vais, pour moi maintenant, mais si vous les êtes dans un restaurant, les gens savent que vous êtes végétarien, ça vous embête qu'on mange de la viande, ils sont gênés. Je dis « moi ça ne m'embête pas, Si c'est quelqu'un que je connais bien, que je peux plaisanter, je dis, ça embête un peu plus le veau qui est dans votre assiette, mais moi, ça ne me fait rien. Donc, si vous voulez, pour eux, le simple fait de dire que vous êtes végétarien, c'est presque une accusation. Et pourquoi ? Parce qu'ils sentent bien quelque chose qui cloche. Sinon, ils ne seraient pas gênés. Si vous disiez, j'ai le diabète, oh mon pauvre, il faut pas mettez pas de sucre. Hein, et si vous dites, je suis végétarien, ah bon, alors nous, on peut manger de la viande. Donc, il y a forcément un sentiment de culpabilité qui est toléré quand tout le monde mange de la viande, on oublie. Mais quand il y a quelqu'un qui vous rappelle que ce n'est pas tout à fait au top, eh ben, vous êtes un trouble fait.
Oui.
D'où le vocabulaire utilisé pour les végans et les végétariens, c'est des extrémistes, c'est des provocateurs. Évidemment, ils sont un peu idiots d'aller peindre des boucheries parce que ça prête crédit à ceux qui disent ça. Oui. Mais si on analyse le vocabulaire, que c'est des gens profondément pacifistes, ils sont présentés comme quasiment des écolos terroristes.
Alors justement, quand vous parlez de vocabulaire, vous parlez à un moment donné aussi de l'expérimentation animale et le fait que le vocabulaire qui est utilisé, la terminologie qui est utilisée, ce sont des mots qui sont relativement neutres pour éviter justement...
Oui, pour éviter de voir qu'on ne ferait pas ça pour des êtres sensibles. Et c'est vrai pour la chasse, c'est vrai pour tout. Donc, j'ai oublié les mots exacts, mais il y a toute une série de vocabulaires qu'on peut mettre en parallèle qui sont précisément pour désensibiliser.
Stimuli négatifs, par exemple. Extinction, je crois.
Extinction ou terminer. Ouais. Les chiens, on les fait dormir. Je sais pas comment en anglais on dit.
Manière de donner bonne conscience aussi.
De dire que c'est pas, en fait, on ne tue pas.
Ouais.
Il paraît qu'un petit garçon en bas de la place, quelqu'un m'a dit que la place du Moustier, un dimanche matin, il y avait des chasseurs, et puis un petit garçon, sans que sa mère lui dise quoi que ce soit, il est arrivé vers le chasseur, il dit « Alors vous partez, vous allez tuer ?»
Ah oui.
Ah, j'étais un peu embêté, mais c'était venu spontanément.
Oui, c'est-à-dire que les enfants, ils disent les choses simplement.
Parce qu'ils n'ont pas peur.
Ils ont dit les choses simplement. Alors, la Florence Burga, elle aborde le thème « Les animaux ont-ils des droits ?» et elle pointe notamment les limites de la législation française, en fait, qui, pour elle, réglemente la mise à mort des animaux. Qu'il s'agisse d'abattage, qu'il s'agisse d'élevage industriel, d'expérimentation.
Ouais.
Donc, quelque part, si on interprète un petit peu ça, le message qu'elle veut passer, c'est difficile de condamner un auteur de sévices, qui vient de faire des sévices sur un chat ou un chien, par exemple, alors que, justement... le droit réglemente ces sévices, ces traitements dans d'autres contextes.
Oui, c'est vraiment un poids de mesure. Il y a un volume qui a été fait par Henri Margenot, je crois, à l'Université de Limoges. J'ai participé sur justement l'évolution du droit animal. Si vous voulez, en gros, donc la maltraitance des animaux domestiques, oui, on voit bien, le chat Oscar, tout le monde s'affole, mais elle s'est toujours acceptée. Excepté les animaux d'élevage, excepté la chasse, excepté partout où on tue. C'est comme la corrida est interdite en France, sauf dans les endroits où elle est pratiquée traditionnellement. Ça veut dire quoi ? On ne va pas interdire la corrida en Norvège.
Non mais oui, c'est...
on va aller interdire les combats de chiens et d'ours à Nîmes. Vous pouvez interdire autant que vous voulez. Et pourquoi interdire la corrida au Pas-de-Calais ? Enfin, c'est un manque de logique. Le code civil des animaux sauvages, c'est toujours, ça s'appelle res nullus. En fait, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Alors que c'est ce qu'on appelle des sujets de vie, c'est-à-dire que c'est des êtres vivants, ils ont envie de rester en vie, ils ont envie de se promener, de procréer, de faire tout ce qui...
Oui, d'avoir une vie,
ils ont,
de ne pas souffrir.
À leur niveau, ils veulent échapper à la souffrance et à la mort, et puis ils ont bien le droit, et puis pourquoi pas, et puis qu'est-ce qu'on en se mêle, en gros. Alors, si on était des Esquimaux qui peuvent vivre que de ça, ou des pêcheurs nomades comme en Birmanie, bon, il y a 0,1% de l'humanité qui dépend vraiment de ça pour sa survie.
Pour la survie.
On n'a pas d'argument avec ces gens-là, ok. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai fait un truc pour le monde, justement, sur les animaux. Il y a les conférences du monde à Paris tous les ans. J'avais posé la question, est-il juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à un être sensible ? Il y a une personne qui avait la main. Ah, je dis, expliquez-moi. Mais il n'a pas compris la question. Donc en gros, j'ai dit, bon, vous êtes d'accord qu'il est juste et immoral, et injuste et immoral. Donc dans le cas des animaux, à part ces 0,1% de...
Oui, qui luttent pour leur survie.
On n'a pas, il n'est pas nécessaire, aujourd'hui, on a tous les moyens, en sans compter les avantages de pas d'avoir pas l'élevage industriel,
sur le plan de la santé,
il n'est pas nécessaire pour notre survie de leur infliger des souffrances inutiles et de les tuer. Donc ça, donc du coup, la conséquence, c'est que c'est injuste et immoral. Et Peter Singer, son grand combat, c'est pas pour « j'aime des animaux », c'est pas un combat pour la justice. Et lui, c'est un moraliste. Et y a, moi, je connais d'autres philosophes aussi qui disent « moi, je mangeais de la viande », mais à mon avis, je me suis dit que c'était contre la justice. C'est injuste.
Ouais. Voilà. Alors justement, ben, qu'est-ce qui manque selon vous, justement? Est-ce qu'il faudrait modifier le droit? Est-ce qu'il faut...
Alors oui, déjà, il y a eu des progrès. Moi, j'étais une fois au Sénat, il y avait un débat sur le code civil, sur les biens meubles.
Meubles, c'est plus des biens meubles, je crois. Depuis 2013 ou 2014, ce sont des...
Donc, c'est plus un mouton, c'est plus un tabouret qui se déplace.
Oui, c'est ça.
C'est déjà bien. Mais, si vous voulez, tant qu'on a... Parce que là, vous n'avez qu'à voir les trucs de L214, je veux dire, ils disent tous... La dame de la FNCA, à l'époque, elle disait « c'est des exceptions ». Moi, j'ai très ami avec Jean-Luc Daube. Il a écrit un livre « C'est bête qu'on abat », qui est magnifique. Mmh. Et lui a été détruit. Il est passé après un an dans un hôpital psychiatrique. Après, il a fait un abri pour les animaux, mais il est extrêmement touché par tout ça. Donc, il était là, soi-disant, pour le compte des ONG pour les animaux, pour observer, pendant 15 ans. Et il disait « non, il y a... 90% des abattoirs qui ne sont pas aux normes. Les inspecteurs, ils arrivent à 8h30, 9h, et tout le pire, ça se passe à la chaîne, sans attendre les délais. 20% des animaux, ils se réveillent parce qu'ils ne les ont pas étourdis, oui. Au moment où ils meurent par petits bouts. Et ils disent, c'est la règle. Et simplement, les inspecteurs arrivent tard, ils grattent surtout de l'aspect sanitaire. En fait, les animaux, ça n'intéresse pas. Et c'est pour ça que abattoir après abattoir, L214 a fait condamner ou montre des images qui sont c'est des enfers pour animaux. Je veux dire, le degré de cruauté, de négligence, c'est inacceptable. Alors à un moment donné, il y avait une loi qu'on devait mettre des caméras dans les abattoirs. C'est finalement ils n'ont pas fait. Je veux dire, pourquoi si on n'a rien à cacher, oui. Si tout est bien, comme l'a dit la MFNSUA, venez voir, c'est un abattoir modèle, vous allez voir. Ben, mettez-en donc, laissez les gens rentrer, sortir.
Oui.
Hein, pourquoi est-ce qu'on condamne L214 pour réfraction, alors que depuis des années, on est en complète contradiction avec la loi française.
Sur la loi, justement,
c'est un lanceur d'alerte.
Plus loin, jusqu'où il faudrait aller au niveau de la loi?
Bah, idéalement, oui, c'est évidemment. Le problème, c'est qu'il y a un intérêt. Bah, d'abord, déjà, on voit bien que les élevages de cochons en Bretagne et tout, les éleveurs, ils ne s'en sortent plus, parce que c'est tout des grandes multinationales, en fait, qui ramassent le fric. Et les éleveurs eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Les travailleurs dans les abattoirs, ils ne tiennent pas le coup. Au bout de 6 mois, ils ont des tendinites, ils sont moralement détruits. Il y a un turnover énorme, c'est souvent des migrants. Enfin, c'est un travail horrible. Ce journaliste qui s'était embauché pendant 3 ou 4 mois, là, il disait que c'était un enfer pour les travailleurs. Maintenant, les exploiteurs s'en sortent à peine. C'est les multinationales, enfin, les grandes entreprises qui ramassent du fric. En gros, c'est ça, malheureusement. Donc ça... Il faudrait qu'il y ait une... Ah oui, mais c'est comme le gars de Total qui dit on n'en changera rien, même avec toute votre science. On bute devant l'avidité qui, de loin, évidemment, on ne va pas voir ce qui se passe dans les abattoirs, il ne se permettrait pas. Et donc, c'est de nouveau un problème de cohérence morale.
Donc, sur le plan de la loi, est-ce qu'il y aurait...
Alors, il faudrait petit à petit, déjà, mettre des lois sévères pour au moins... les abattoirs soient véritablement aux normes européennes. Déjà, ça serait un progrès, parce que ce n'est pas le cas, parce qu'ils veulent faire plus vite, plus facilement, plus négligent. Vous savez, même dans le livre de ce journaliste-là, lui, il a été embauché dans la découpe. Mais il disait de l'abattage, même les travailleurs qui sont à la découpe, ils n'ont pas le droit d'aller voir, parce que c'est tellement horrible que même les travailleurs, ils les laissent pas regarder, alors qu'ils sont déjà là à faire des trucs pas possibles, à découper des porcs en morceaux. Donc, vous voyez, ça, c'est inadmissible. Donc, il faudrait que... Et d'ailleurs, L214 a fait 4 fois condamner l'État pour négligence quant à l'application des règles. Ils ont été condamnés, l'État.
Alors, qu'est-ce qui manque pour vous pour accélérer cette prise de conscience. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire?
Sur quelques années, quand même, on voit des gens comme L214, il y en a d'autres. Quand même, de plus en plus de gens prennent conscience, ces vidéos circulent à grande échelle. Avant, ils étaient condamnés systématiquement pour infraction. Maintenant, c'est eux qui gagnent la plupart des procès. Il y a des abattoirs qui ont été fermés. Donc, il faut que cette pression continue pour que ça soit aux normes. On ne demande pas. Bon, ça serait très bien si on fermait tout l'élevage industriel.
Alors, j'allais y venir, hein, parce qu'on ne pourra pas mettre fin
totalement.
Idéalement,
la dame de l'inspection m'avait dit, vous n'allez pas mettre 100 millions de poulets dans la rue. Je dis, mais madame, vous savez très bien, d'abord, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il n'y a qu'à voir les mines de charbon, les filatures en France, sur une génération.
Oui.
Et là, entre-temps, les gens ils pourront se reconvertir ou pas entrer dans le métier. Enfin, ça se fera. Il y aura, comme toujours, il y a des changements dans la vie et dans la civilisation et dans l'histoire, des ajustements qui ne sont pas forcément faciles, mais qui sont inévitables. Et ça se fera sur 30 ans si ça se fait. Je ne peux que souhaiter que 80% des Français finissent par être végétariens par nécessité. Et que de ce fait, les abattoirs ferment sur 30 ans, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander maintenant, parce que d'abord, ça ne se fera pas, ensuite, ça va bloquer, ça va antagoniser tellement les gens qu'on ne va arriver à rien. Donc, il faut progresser sur le respect des règlements, mais vraiment, il y a des mesures sévères, il y avait des inspecteurs qui regardent vraiment ça et non pas simplement la qualité sanitaire. Et puis, peu à peu, laisser les mentalités changer, ça se fait généralement sur une génération. Et probablement, si le mouvement continue, ça devrait s'amenuiser au fil du temps. Il y aura toujours des gens qui continueront, mais ça pourrait s'inverser la majorité.
Déjà, vous dites que si on réduisait la consommation de viande, déjà,
oui,
ça aurait des répercussions déjà concrètes.
Alors moi, j'avais, à un moment donné, il y avait l'idée de promouvoir un menu végétarien à l'école. Alors moi, j'ai été confronté sur une radio avec un maire un peu au sud de Paris qui m'a dit « Enfin, nos diététiciens nous disent que gna gna gna. Les enfants, ils ne vont pas… » Je dis « Monsieur, vos diététiciens, ils sont bien gentils, mais moi, j'ai quand même étudié un peu la question. Il y a des études épidémiologiques sur 15 ans et 100 000 personnes qui montrent que c'est plutôt bon pour la santé qu'autre chose. Et il y a, je connais aucune étude qui montre, à moins que vous… vous soyez vegan dès la naissance et vous n'auriez pas dû vous donner de la farine dans de l'eau à un nouveau-né, mais je veux dire, le végétarisme en tout cas, il n'y a absolument aucune étude qui montre que c'est délétère pour la santé. Et j'ai dit même, pour mettre la cerise sur le gâteau, il y a une compagnie d'assurance anglaise.
Oui, j'ai vu.
Ça, c'est pas mal.
Qui fait 30% de réduction.
Ouais, parce qu'eux, ils savent où mettre leur argent. Donc, si vous voulez, ces arguments qui ne tiennent pas la route. Ah, oui, mais ça serait, il faut faire deux menus. De toute façon, c'est moins cher en plus. C'est bon pour l'écologie, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout. Alors, c'est des habitudes. Donc, il faudrait mettre un menu végétarien. Pourquoi est-ce que dans un restaurant, on peut commander ce qu'on mange, qu'on a envie de se manger? Quand on est dans un train ou un avion, si vous demandez végétarien ou pas, vous avez le droit. Et les enfants, qui souvent ont une grande sensibilité vis-à-vis des animaux, alors on leur donne pas le choix. Ben, c'est pas normal. C'est pas des caprices, c'est un choix important quand même. La relation aux autres êtres vivants. Je veux dire, il y a 400 millions d'Indiens qui sont végétariens.
Oui, oui.
Et c'est devenu le peuple le plus peuplé du monde. On ne peut pas dire que ça nuit à la population. Hein.
Oui.
Non, ça, c'est des mauvais arguments, c'est de la mauvaise foi. Mais il faut le faire en douceur, parce que rentrer dans le chou, ça ne sert à rien. Il faut expliquer, détailler ce qui se passe. Mais en tout cas, la raison pour laquelle j'ai accepté, je pensais que c'est extrêmement louable que la mairie de Périgueux, dans cette région, fasse ça, parce qu'ils savent un peu à quoi ils s'exposent avec des gens comme nous.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mathieu Ricard.
Ouais, je veux plaisir.
Merci beaucoup.